Bonjour, bienvenue dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur de RDOA 107.5. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 23 de l'émission. Dans le studio, c'est Fred qui vous parle. Avec moi, il y a Axel, il y a Rémi et notre invité, Bernard Cellier.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, le sommaire de ce 23e épisode de l'Étoile polaire. On va commencer par le ciel ce soir, comme d'habitude. Ensuite, je ferai un petit point d'astro qui, cette semaine, sera plutôt un point de, on va dire, astrophilosophie. On parlera d'Einstein versus Fukuoka. Ensuite, Rémi, tu nous présenteras ta rubrique d'astrophoto et cette semaine, tu nous parleras d'astrométrie. Et on consacrera donc la deuxième partie de l'émission, après la pause musicale, à une interview de notre invité, Bernard, qu'on remercie d'être venu. Et qui a créé et animé les rencontres d'astronomie de Marignac depuis 2015. Donc, il nous expliquera un petit peu comment il a créé cet événement et comment ça s'est déroulé. Voilà pour ce sommaire. Alors, Axel, je te laisse la parole pour le ciel ce soir.
Oui, le ciel ce soir, le ciel de cette fin de mois de mai. On a à la tombée de la nuit la constellation de la Balance qui est au ras de l'horizon, qui est à son méridien. Et si on attend un petit peu, un peu plus tard dans la nuit, disons vers minuit, c'est Antares qui passe au méridien. Antares, la constellation du Scorpion. Et je voulais parler d'Antares, l'étoile la plus brillante de cette constellation.
Rouge.
Rouge, voilà ce que j'allais dire, qui tient son nom de Arès, c'est le dieu de la guerre chez les Grecs et qui représente, qui est son équivalent dans la mythologie romaine, c'est Mars. Et donc, comme vous le savez, quand on observe Mars à l'œil nu ou dans un télescope, évidemment, elle est rouge, comme Antares, qui est une étoile rouge, une super géante rouge, et que les Grecs ont appelé ainsi Antares, parce qu'on retrouve le suffixe anti devant Arès. C'est l'anti-Mars, c'est la non-Mars. Voilà, une très belle étoile brillante du ciel d'été qui commence à pointer le bout de son nez en ce moment.
Et très belle constellation, le Scorpion. Ouais. Là, c'est vrai que récemment, je l'ai vu sortir pour la première fois de l'année.
Ouais. Ça fait plaisir.
Ouais. Ouais, ça fait ça toujours plaisir arrivait, de la retrouver. Ouais. Ouais.
Et dans le Scorpion... aux alentours d'Antares, on retrouve des amas globulaires, des amas d'étoiles. Je ne sais pas si on a déjà parlé des amas.
On a mentionné, oui, j'avais fait un bestiaire un peu du ciel de l'astronome amateur.
Donc un petit rappel, les amas, on différencie les amas ouverts et les amas globulaires. Dans le Scorpion, ce sont des amas globulaires qu'on retrouve. Et donc c'est, imaginez des nuages d'étoiles en fait très très proches qui se comptent par milliers voire centaines de milliers pour les plus gros d'entre eux. Pour donner une ordre d'idée, l'étoile la plus proche de notre système solaire, donc Proxima du Centaure, est à 4,2 années-lumière et elle est déjà assez proche. En général, les étoiles sont espacées de l'ordre de 5-10 années-lumière. Dans un amas globulaire, on peut retrouver des étoiles distantes d'une année-lumière l'une de l'autre, voire moins des fois. Et pour un des plus connus d'entre eux, Messier 13 dans Hercule, on dénombre, je crois, dans les 100 000 étoiles, dans une petite poche comme ça, dans une région assez limitée. Donc une densité d'étoiles très très forte dans une zone limitée.
De types différentes aussi.
De types différentes. Oui, exactement.
Mais ça fait des formes un petit peu, moi je trouve un peu arachnoïdes, un peu les amas globulaires.
C'est vrai,
quoi.
Ouais.
En fait, les amas globulaires, on peut mentionner vite fait, c'est plutôt des étoiles vieilles et qui, oui. sont en fait au voisinage complètement immédiat de notre galaxie. Quoi. Oui. Elles sont un peu en dehors de la galaxie, mais juste à côté.
Pour la plupart, ouais, c'est ça.
C'est... Donc c'est comme des petites bulles de groupes d'étoiles là, comme ça, qui sont comme ça disséminées autour des galaxies.
Des mini-galaxies voilà, qui gravitent.
Présente beaucoup d'objets du catalogue aussi, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être la majorité, même, je dirais. Ouais. Voilà, pour le ciel ce soir. Je voulais aussi vous annoncer fièrement que je viens de créer ma petite boîte d'animation en astronomie et que voilà, j'envisage d'aller présenter le ciel à un maximum de personnes dans la région. Que ce soit directement chez vous, si vous êtes intéressé, voilà, chez les particuliers, et aussi dans des structures comme les campings, les centres de vacances. Voilà, vous pourrez me retrouver tout l'été et toute l'année si possible, mais je me doute bien que ce sera surtout saisonnier. Voilà, à me déplacer avec mon télescope et à vous présenter le ciel à l'aide du télescope, à l'aide d'un faisceau laser aussi, pour montrer à l'œil nu, et pour vous transmettre mes connaissances et ma passion. Si j'arrive, répondre à vos questions.
Et du coup, comment on fait pour te contacter ?
Et alors, pour me contacter,
t'as un contact précis ou via le mail de l'émission ou...
Alors, vous pouvez passer par l'émission, par Radio Diwa.
Bah, je vais en profiter pour rappeler l'adresse mail de l'émission. C'est quoi d'ailleurs ? Oui, c'est astro-rdiwa, donc astro-rdwa, tout attaché, @protonmail.com. Donc ça, c'est la boîte mail de l'étoile polaire. Et à l'avenir, on l'espère aussi, du club d'astronomie, le jour où on aura trouvé un lieu pour l'accueillir. Mmh. Donc, on peut éventuellement, Axel, te joindre par ce biais-là. Voilà.
On peut me joindre. Alors, la boîte s'appelle Cosmodyssée, à l'anglaise, donc Odyssée, E-Y. Cosmodyssée, donc j'ai une page Facebook où vous pouvez me contacter. J'ai un mail, contact.cosmodyssée@gmail.com. Et mon numéro de téléphone que je peux donner, 06 31 14 75 69. Voilà, n'hésitez pas à venir me contacter. Je vous proposerai, on s'arrangera au mieux pour organiser une belle soirée originale.
Et ben merci Axel. Alors, on va continuer cette émission avec le point d'astronomie. Donc, cette semaine, je vais parler, donc j'ai dit, d'Einstein versus Fukuoka. Alors, ça ne va pas être un point d'astro comme d'habitude. Je ne vais pas développer de concept réellement scientifique cette fois. Par contre, ça va clôturer un petit peu la série de 5-6 émissions que j'ai fait dernièrement. Sur un peu cette physique de transition entre le 19e et le 20e, l'approche de la mécanique quantique, de la relativité générale. J'ai eu envie de parler de ce thème parce que là récemment j'ai lu un livre donc de Fukuoka que je vais présenter un petit peu avant de...
Oui, c'est qui ce Fukuoka? Voilà. C'est Einstein, donc, je vois.
Mais... Ouais, Einstein, on voit à peu près. Ouais. Fukuoka, en fait, donc c'est comme son nom l'indique, pour ceux qui... c'est un japonais. Ouais. Et donc lui, il a écrit un livre à la fin des années 60 qui s'appelle « La révolution d'un seul brin de paille ». Et c'est une sorte de manifeste... Donc lui, c'est un agriculteur.
Okay.
Et toute sa recherche, en fait, c'est de faire de l'agriculture autrement. On pourrait dire que c'est un des pères modernes de la permaculture. Mmh. Le livre n'a été traduit en France qu'en 2015. Donc il y a quand même eu un peu de
oui, 50
un petit
ans,
laps de temps. Donc c'est par exemple lui qui a commencé à faire ce qu'on appelle les bombes à graines. C'est-à-dire, lui, il semait en fait soit à la volée, et il se rendait compte que quand même les oiseaux, ils aimaient bien le suivre et manger ses semences. Donc il enfermait tout ça dans des petites boules d'argile. Et ça réglait pas mal de problèmes pour lui. Donc il semait comme ça. Et donc ça, c'est un truc qu'on peut voir faire. C'est proposé dans les animations, les ateliers enfants. On fait des bombes à graines dans l'argile. On met des graines et hop, on les balance dans la terre. Et après, ça va germer, en fait. Donc Fukuoka, lui, à la base, c'est quelqu'un qui, on va dire, une sorte de technicien agronome. Jeune, il travaillait dans des entreprises de recherche agronomique. Et très très vite, en fait, il s'est senti pas du tout à sa place. Et donc, il est parti faire le paysan et faire ses expériences. Et tout est basé pour lui sur l'observation vraiment de la nature, de ses cycles, de comment ça se passe, et surtout de toutes les relations et les interrelations qu'il peut y avoir entre les insectes, le sol, le climat, les plantes entre elles aussi, etc. Donc, il est vraiment dans une vision... très orientale et un peu holistique, en fait.
Ouais, global.
Global de tout ça, du vivant, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Par exemple, c'est quelqu'un... Donc, lui, il raconte... Tout ce qu'il dit, c'est basé sur son expérience. Il a passé 40 ans à cultiver. Donc, c'est pas... c'est acté, quoi. Tout ce qu'il raconte, c'est l'expérience qui parle.
C'est du vécu.
C'est du vécu, voilà. Et lui, c'est lui aussi qui a commencé à parler du non-labour, par exemple. Donc lui, jamais il a bourré la terre. Jamais il laissait un champ nu, par exemple. C'est aussi lui qui a commencé à semer le riz dans, le trèfle. Ces choses qu'on voit même ici, maintenant, dans le Diwa. Moi, je connais des paysans meuniers qui cultivent leur blé dans la luzerne vivante, donc en apport d'azote, etc. Donc voilà, ouais. Tout ce genre de pratique, c'est un peu Fukuoka qui a lancé tout ça, quoi. Et c'est vraiment très intéressant en termes d'agriculture. Alors, on ne fait pas une émission sur l'agriculture, mais je voulais quand même présenter un petit peu le personnage, sa façon de voir les choses. Après, Fukuoka, il n'a pas la langue dans sa poche, il est très, très critique sur l'agriculture moderne. Et du coup, ça va plus loin. Il en arrive à une critique sociale, à la fois des contraintes, en fait, que peut subir le monde paysan suite à la mécanisation, les contraintes de rentabilité, aussi tous ces problèmes de ce système où, en fait, les paysans empruntent de l'argent pour acheter des grosses machines et des désherbants, et etc., dont ensuite ils deviennent dépendants, et donc ils s'endettent, et donc c'est le cercle vicieux qu'on connaît en France. Hein, grands paysans, c'est tout un modèle de l'agriculture qu'on connaît très bien, qui est mondial. Et lui, déjà, il le fustigeait à l'époque, quoi. Donc, voilà. Donc, dans ce contexte, à un moment du livre, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler dans l'émission, il parle d'Einstein. Alors, je vais vous lire le petit paragraphe sur Einstein. Donc, Fukuoka a écrit. On dit qu'Einstein reçut le prix Nobel de physique en l'honneur de l'incompréhensibilité de sa théorie de la relativité. Si sa théorie avait clairement expliqué le phénomène de la relativité dans le monde et avait ainsi libéré l'humanité des limites de temps et d'espace, amenant un monde plus plaisant et plus paisible, elle eût été digne d'éloge. Son explication est toutefois déroutante et a poussé les gens à penser que le monde est complexe au-delà de toute compréhension. On aurait dû, au contraire, lui décerner un procès-verbal pour dérangement de la paix de l'esprit humain. Donc ça, c'est ce qu'il pense, en fait, d'Einstein. Et encore un petit paragraphe qui est intéressant aussi. Dans la nature, le monde de la relativité n'existe pas. L'idée de phénomène relatif est une structuration de l'expérience par l'intelligence humaine. Les autres animaux vivent dans un monde où la réalité n'est pas divisée. Dans la mesure où l'on vit dans le monde relatif de l'intelligence, on perd de vue le temps qui est au-delà du temps et l'espace qui est au-delà de l'espace. Alors là, évidemment, ce dernier paragraphe, on est en pleine spiritualité orientale, taoïsme et autres. Voilà. Mais donc moi, ce que j'avais envie de discuter un petit peu sur ce point de vue, parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent. Einstein partout, c'est Einstein, c'est vraiment le grand maître, le roi de l'intelligence, l'homme le plus intelligent de tous les temps, etc.
Oui, c'est devenu un symbole, un synonyme d'intelligence même.
Ouais. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour. Oui, voilà. C'est rentré dans le langage, dans le langage courant. Même ici, dans l'émission, moi j'en ai parlé moult fois d'Einstein. Et c'est vrai que dès qu'on aborde un peu la science, Einstein, c'est quand même une référence incontournable. Et quand même, il a effectivement, à l'intérieur de la pensée occidentale, complètement élargi le cadre, en fait, de pensée à son époque. Et donc, lui, il dit, en fait, tout ça, ça sert à rien. Et c'est même au contraire, on aurait dû lui décerner un procès-verbal pour dérangement de la paix de l'esprit humain. Mais alors, d'un côté, j'ai trouvé qu'il y avait... je vais un peu en discuter, puis après, on en parlera ensemble si vous avez envie. Mais Il y a un côté déjà un peu, on va dire, imprécis ou injuste dans ce que dit Fukuoka. Il dit Einstein a reçu le prix Nobel en l'honneur de l'incompréhensibilité de sa théorie de la relativité. Mmh. Alors, j'ai déjà dit, en fait, Einstein, il n'a pas eu du tout le prix Nobel pour la relativité. Il l'a eu pour l'effet photoélectrique. Ouais. Donc ça, déjà, pour commencer. Mais effectivement, il y a quand même cette idée qu'on lui a donné le prix Nobel pour l'effet photoélectrique parce qu'au fond, on n'osait pas trop lui donner pour la relativité générale parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait en fait pas grand monde qui comprenait, pour être honnête, ce qu'il racontait. Quoi. Et que pour eux, c'était trop, en fait. Donc, quelque part, il n'a pas entièrement tort, Fukuoka, même si c'est un petit peu tendancieux comme argument. Et ensuite, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de qu'est-ce que ça vous inspire, quoi ? Est-ce que ça vous inspire quelque chose ou pas ?
Bah, le comparatif, il est intéressant, en tout cas. On passe un peu d'un extrême à l'autre.
Oui, c'est deux mondes vraiment très différents. Ça entre le paysan taoïste japonais, l'agriculture du non-agir, et Einstein, un des plus grands scientifiques occidentaux. Bon. Il y a deux visions du monde quand même qui se télescopent, là, c'est le cas de le dire.
Si je peux me permettre, il y a une chose qui m'a toujours surpris dans la relativité, mais je suis incompétent en astrophysique, mais enfin, une question que je me pose, c'est de quoi le temps est-il le nom ? Qu'est-ce que c'est le temps ? Plus je m'intéresse à l'astronomie, au moins je comprends ce que c'est le temps. Donc, alors, comprendre en plus la théorie d'Einstein, là, c'est prendre la tête et...
Ben, ce qui est sûr, c'est que...
C'est quand même terrible. Quand même.
Ça, c'est vraiment une question qui dépasse la science, quoi, je pense. Hein.
Et donc, personne n'a la réponse. Là, on attaque vraiment... la philo.
Ouais, un peu plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Einstein, lui, justement, dans le cadre de la relativité générale, il dit le temps, c'est une coordonnée comme les trois coordonnées de l'espace, en fait. Il intègre, en fait, le temps comme si c'était quelque chose de comparable à l'espace. Et du coup, il crée le concept d'espace-temps.
C'est une distance qui s'éloigne.
Alors, effectivement, il y a ces histoires de relativité parce qu'en apparence, on avait déjà un peu évoqué ces histoires de contraction des longueurs ou de dilatation des longueurs dès qu'on commence à approcher les vitesses de la lumière. On ne va pas se relancer là-dedans, mais on avait consacré une émission un peu à ça, au temps en astrophysique. On avait évoqué un peu ces sujets. Je vous y renvoie si ça vous intéresse. Mais c'est sûr que, en fait, le temps, il est central dans Einstein. Et du coup, le temps, mais ce lien entre temps, distance et vitesse, en particulier aussi le fait que lui, il décrète que... Enfin, il dit qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, ou en tout cas, il n'envisage pas comment on pourrait.
Elle est réputée indépassable.
Elle est réputée indépassable. Donc là, on verra, est-ce qu'il y a une théorie dans l'avenir qui sortira, qui élargira le cadre, qui montrera, comme souvent, que ben, la théorie de la relativité, qu'elle soit restreinte ou générale, n'est qu'un cas particulier d'une théorie plus vaste, parce qu'en général, la science, elle progresse comme ça, en englobant ce qui a été fait avant. Ça, l'avenir le dira. Sur ce mot de relativité, on peut peut-être parler un peu, parce qu'effectivement, Fukuoka, il dit, en fait, la relativité, c'est n'importe... Enfin, ce concept n'existe pas. C'est une construction de l'intelligence. Lui, il appelle ça l'intelligence discriminante, vraiment de classifier les choses, de les séparer, ce qui évidemment est à l'encontre de toute philosophie un peu spirituelle, qui a tendance au contraire à unifier tous les aspects de la réalité. Mais dans la théorie d'Einstein, ce qui est relatif, en fait, c'est la notion de référentiel, ouais. C'est-à-dire dans quoi, par rapport à quoi on regarde les choses. Si je mesure une vitesse, je mesure forcément la vitesse par rapport à quelque chose que je considère comme immobile. Donc, l'exemple classique, c'est le train. Vous avez un train qui roule à 100 km/h. Bon, ben, si vous êtes avec les vaches qui regardent le train, vous dites qu'il se déplace à 100 km/h. Maintenant, si vous êtes à l'intérieur du train assis, vous avez l'impression d'être immobile. Donc tout est effectivement la relativité dans Einstein, elle porte sur la notion de référentiel, par rapport à quoi on regarde, et ça a un sens quand même.
Oui. Et j'ai souvenir aussi que Einstein a dit avoir un peu regretté d'avoir choisi ce mot relativité, et que sa théorie aurait pu aussi s'appeler la théorie des invariants Parce que justement, il y a dans la formule E égale mc2, il y a le c qui est un invariable, la vitesse de la lumière, et qui, peu importe le référentiel, là, pour le coup, ne bouge jamais et peut servir de base à d'autres calculs ensuite. Ouais, ouais. Du coup, l'attaquer sur le mot relativité, c'est peut-être réducteur, sans... peut-être, je sais pas, voilà.
J'ai l'impression que ce qui se dit dans l'article que tu as lu, c'est aussi un comparatif avec la vie sociale, effectivement, sur la planète et l'intérêt que peut avoir dans le quotidien cette théorie, ses fondements du siècle dernier, tout ça. À quel point on a une application concrète qui peut nous permettre déjà de comprendre mieux, parce que c'est une théorie quand même qui n'est pas facile à comprendre, et quelle application dans le domaine du courant on peut en tirer.
C'est quasi nul, hein, les applications de la relativité générale dans le concret.
C'est une description.
On est loin du concret, en fait.
Ouais. Hein. Si on s'invite à subvenir aux besoins fondamentaux de l'humain, comme... Coca, il travaille plutôt là-dessus,
voilà,
quoi.
C'est effectivement se nourrir, deux choses qui n'ont rien à voir. Ouais. Mais ce que, ouais, en fait, en discutant là, j'ai l'impression que ça me donne, en fait, c'est que c'est deux visions quelque part qui sont comme si elles se rejoignaient pas du tout, en fait. Oui. Il y a pas de point commun réellement entre ces deux visions du monde. Quoi. Ça veut pas dire que l'une est plus juste que l'autre. C'est juste que c'est deux visions complètement différentes. Quoi. D'un côté, la science occidentale, de l'autre côté, lui, quelqu'un qui... Einstein, ses calculs, tout ça, il ne s'intéresse pas à la qualité de la vie sur Terre. Ce n'est pas du tout son sujet. Foucault, il ne parle que de ça. Donc, il ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Et du coup,
c'est une confrontation.
C'est une confrontation, je vous propose...
Peut-être qu'il est sur le temps long aussi, Foucault, parce que l'agriculture, ça demande à observer, à voir pousser, à récolter.
Oui, et puis
visiblement avec des moyens rudimentaires et mais efficaces.
Tout à la main, il n'a pas une machine. Oui, sur un temps long, et puis aussi sur, ça va au-delà de sa propre vie aussi, qu'est-ce qu'on laisse comme terre à nos enfants, aux générations suivantes, etc. Est-ce qu'on a un mode de vie qui épuise les ressources naturelles ou pas? Bon, voilà.
Qu'est-ce qui dépend de nous?
Qu'est-ce qui dépend de nous? Beaucoup de choses, quand même. En tout cas, selon Foucault, il y a quand même dans la façon de faire à manger. Mais après, Foucault ne fustige pas que les cultivateurs, il fustige aussi les consommateurs. En disant, il y a aussi tout un tas de contraintes et de dérives de l'agriculture qui sont liées à la demande, en fait. Où les gens vont, si ce fruit il est un peu plus beau, je vais l'acheter, même s'il n'est pas forcément meilleur, etc. etc.
Il n'a pas tort, parce qu'une pomme dans un supermarché au Japon, il faut que ça reste 2 heures. Après 2 heures, aller enlever.
Voilà, je vous propose de ne pas forcément plus creuser que ça le sujet à l'antenne, mais de vous laisser à vos propres réflexions sur ces sujets-là.
À méditer.
Merci.
On va continuer l'émission et passer à la rubrique suivante. Donc cette fois, ça va être toi, Rémi, qui va nous parler d'astrométrie appliquée à l'astrophoto.
Yes. On va présenter dans les grandes lignes ce qu'est l'astrométrie et l'utilisation qu'on peut en avoir en astrophoto amateur. Qui peut aider et avoir certains avantages dans la pratique. Donc l'astrométrie, qu'est-ce que c'est? On parle aussi d'astronomie de position. C'est en fin de compte l'étude des mouvements et des distances. Donc qui s'applique en premier lieu dans le domaine du scientifique. Mais c'est tout de même la plus... On le considère comme la plus vieille branche de l'astronomie au sens propre. Donc dès l'Antiquité, il y a eu des choses... qui ont été effectués, qui appartiennent au domaine de l'astrométrie, notamment définir le diamètre de la Terre, la distance de la Lune, toutes des choses qui nous sont venues de l'observation depuis la Terre, les équinoxes, la mécanique céleste, tout ça c'est...
Ouais, les planètes.
Ouais, voilà, tout ce qui est les cycles, tout ça. Donc c'est vraiment une étude de la géométrie liés à l'observation. Quoi.
Puis là, tout ce qui est la navigation aussi, ouais. Pour se repérer,
l'orientation,
latitude,
voilà,
ouais. Longitude, etc.
Il y a beaucoup de choses qui ont découlé de ça. Ça permet de se situer. Donc, actuellement, dans une pratique plus moderne, en scientifique, on observe les mouvements galactiques, l'expansion de l'univers, la dynamique des corps dans l'espace, tout ça. Enfin, c'est un outil qui est à la fois indispensable et puis qui est hyper riche d'informations, quoi.
Mais qui est rarement aussi une fin en soi. Qui va souvent être utilisé
oui, c'est ça,
pour
c'est
faire
un...
quelque chose.
C'est
par exemple, on voyait Maciela avec Vesta ou tout ça, ou quand on essaie de faire se rencontrer une sonde et un astéroïde, c'est clair que là, il y a un sacré paquet de calculs, de position, de vitesse, et ça, c'est de l'astrométrie.
Ouais, les trajectoires stellaires, tout ça. C'est... Voilà, donc c'est un domaine assez large qui englobe. Tout ce qui est en rapport avec les positions et les mouvements. Et il y a beaucoup d'utilisations qui découlent de ça. Et donc, nous, en astronomie amateur, notamment en astrophoto, voilà, on parle de solutions astrométriques, de photométrie. Disons qu'en premier lieu, on va pouvoir identifier quels sont les objets présents sur une image. Donc, ça fait référence à une base de données, à plusieurs catalogues, qui sont mis bout à bout ensemble, quoi. Ça nous permet d'avoir tout le ciel référencé. Et donc, si on prend une photo du ciel, focale un peu longue, ça s'apprête à des images du ciel profond, plus que des images grand champ, type Voie lactée ou quoi. Si on a une photo où on croit qu'il n'y a pas d'objet dedans, on peut le rentrer dans un logiciel, dans un serveur, et... le système va détecter automatiquement les étoiles présentes, s'il y a des galaxies, s'il y a des nébulosités, s'il y a des amas. Donc, ça a un côté ludique. Quand on a fini de traiter une photo ou quoi, si on a bien vu qu'il y avait des petites galaxies quand même dans les coins, sur le fond de ciel. Enfin, voilà. Donc, ça nous permet d'identifier les objets. Voilà, en premier lieu. Après, ça peut aussi s'appliquer en recherche amateur. Disons que si on voit sur plusieurs séries de photos un point blanc qui circule doucement, on peut lui faire une solution astrométrique pour savoir s'il est référencé ou pas dans les catalogues mis à jour récemment, tout ça. Et donc, on peut très vite identifier un astéroïde ou une petite comète ou quelque chose, une supernova. Des choses comme ça, c'est tout à fait abordable dans le milieu de l'astronomie amateur, étant donné qu'on a libre accès à la base de données qui a été faite par les satellites, par les télescopes professionnels, etc. Donc voilà, il y en a qui aiment bien faire de la recherche, et c'est les chasseurs de comètes modernes amateurs, quoi. Donc ça, c'est un côté sympa.
Oui, je précise, c'est juste que si on fait une photo d'une partie du ciel et qu'en fait on identifie grâce aux cartes, toutes les coordonnées que fournissent les satellites professionnels, tous les objets, et qu'on voit qu'il y en a un en fait qui n'est pas référencé, clairement c'est qu'on a affaire à soit une supernova, soit quelque chose comme ça, soit effectivement une comète ou un astéroïde, voilà.
Voilà, un objet qui circule.
Un objet qui circule, qui se déplace et que donc on identifie comme étant inconnu.
C'est exactement ça, ouais. Et du coup, pour revenir un petit peu aux pratiques amateurs un peu plus courantes, l'astrométrie, ça va être vraiment un confort et d'utilisation, et surtout une ergonomie. Donc ça va faire une assistance au cadrage dans un premier temps, avec monture motorisée. Donc on avait parlé un petit peu qu'il y avait des systèmes qui pouvaient viser automatiquement, par le biais de la monture motorisée, une région du ciel. Mais c'est pas encore ce qu'il y a de plus précis, c'est-à-dire que à la suite de ce mouvement-là, on prend une photo, on effectue une résolution astrométrique, et là l'application va savoir nous dire si jamais il faut bouger de quelques minutes d'arc le cadrage pour être vraiment centré. Donc C'est-à-dire que ça fait un gain de temps. Ça peut permettre de retrouver le même cadrage sur plusieurs soirs. Ça peut avoir beaucoup d'avantages, mais beaucoup de temps. Parce qu'en astrophoto, on a quand même ce rapport au temps. Surtout à cette époque-là, les nuits sont très courtes. On commence à imager à minuit, on finit à 4 heures du mat. On a 4 heures d'exploitable. La moitié du temps, généralement, puisque sans ça, c'est les phases de lune qui empêchent de pratiquer. Sans parler de la météo. Donc, c'est vrai que sur 4 heures, si on a déjà passé une heure et demie à faire notre cadrage, voilà, on n'a pas optimisé notre séance. Donc, c'est quelque chose qui est devenu assez courant. On appelle ça le plate solving. C'est un cadrage par astrométrie. Donc, voilà, moi, je trouve ça super qu'il y ait cette base de données mise à disposition pour tout le monde. C'est une sorte de générosité, quoi. Quelque chose du domaine du scientifique qui peut être très compatible avec le domaine de l'amateur. Donc voilà, c'est super intéressant pour ça. Et donc maintenant, c'est vrai qu'il y a récemment, il y a beaucoup d'équipements qui sont inventés, qui sont mis au point pour justement gagner dans toutes ces ergonomies à l'utilisation. C'est-à-dire qu'on peut faire un alignement polaire par astrométrie, sans avoir de visuel sur l'étoile polaire. C'est-à-dire qu'on va orienter le télescope d'une certaine manière, prendre une photo une minute plus tard, il y aura une dérive, et du coup, on va savoir si on est bien aligné ou pas. Et là, un logiciel va me dire, il faut bouger un petit peu. Donc après, c'est pas non plus mâcher tout le travail, il faut quand même régler, mettre en application, mais ça offre des solutions pour certaines circonstances qui sont vraiment pas négligeables. Ça peut gérer, par exemple, le retournement au méridien. Une fois que le télescope a tourné pendant plus de 6 heures, avant qu'il bute sur le trépied, il faut le retourner, mettre le contrepoids dans l'autre sens, refaire le cadrage, refaire beaucoup de choses. Avec une solution astrométrique, ça devient évident, quoi. On est sûr de retrouver le même cadrage. On peut affiner vraiment les cibles qu'on vise. On peut aussi lancer une session de mosaïque, par exemple un panorama. Avoir les coordonnées du centre de chaque image qu'on veut fusionner en panorama. Ça, si, quand on n'a pas ces moyens-là, faut vraiment maîtriser beaucoup le cadrage et bien connaître l'endroit qu'on image. C'est-à-dire que c'est des images qui vont prendre plusieurs semaines à être réalisé, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui apprend aussi avec modération, c'est-à-dire que ça vend beaucoup de facilité, beaucoup du matériel chinois, tout public. Il y a un créneau commercial qui était disponible, ils se sont emparés de ça. Et donc, voilà, ils vendent un peu les produits comme astrophoto clé en main. Ça peut séduire quand on lit le mode d'emploi, c'est enfantin, mais... C'est bien quand même de comprendre tout ce qu'on fait et pourquoi on cherche à le faire de cette manière-là, quoi. Voilà, donc, à contempler avec modération, mais avec de la curiosité, je dirais. Voilà pour l'astrométrie.
Ben merci, ouais, Rémi.
Merci.
On va faire une petite pause musicale. Alors, cette semaine, on va partir à Madagascar, dans la région de Tuléar. On va écouter un peu de Tsapik avec Damili. Et on se retrouve après. Thank you. et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA 107.5. On va attaquer la deuxième partie de cette émission. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Axel, tu voulais nous faire partager une petite remarque.
Oui, ça m'est venu pendant ta rubrique d'astrométrique. Tu disais que c'était quelque chose d'assez pointu, de scientifique, mais accessible aux amateurs. Et ça m'a fait penser que ces dernières années, il y a de plus en plus de ponts qui se créent entre la communauté pro et la communauté amateur partout dans le monde. Il y a notamment eu la création d'un prix entre la SAF, dont on va parler un peu tout à l'heure, la Société Astronomique de France, et la SF2A, la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique, qui est un prix qui récompense les collaborations, une collaboration chaque année entre des pros et des amateurs. Et, parce que voilà, le matériel amateur est de plus en plus efficace, de plus en plus pointu aujourd'hui et de plus en plus accessible. Et donc ça m'a fait penser à une info que j'ai vue il y a quelques jours d'un programme, là, d'un projet qui se lance, qui a pour slogan « Aux astres citoyens ». Et c'est des scientifiques qui demandent la collaboration d'amateurs, la participation d'amateurs pour filmer le transit d'une exoplanète qui aura lieu, qui sera visible depuis la France le 27 juin. Si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. Exactement. Dans la nuit du 26 au 27, voilà. Donc il y a une exoplanète, une planète qui orbite autour d'une étoile autre que la nôtre, autre que le Soleil, qu'on a amoureusement appelée WASP-148. WASP, c'est le nom du télescope, mais ça doit être Wide Angle Spectrogramme, quelque chose comme ça, spectromètre. Et donc cette planète, WASP-148b, va passer devant son étoile et tout le monde, c'est très faible comme luminosité, c'est une étoile de magnitude 12 qui est dans la constellation d'Hercule, qui demande d'avoir au moins un télescope de 200 mm et de filmer ça. Et en fait, on sera capable ensuite, et surtout en compilant toutes les données, de faire une courbe de la luminosité de l'étoile, et il y aura une petite baisse à un moment qui correspondra au passage de cette planète, qui devrait durer 3 heures à peu près, le transit. Et voilà, c'est coordonné par l'AFA, l'Association Française d'Astronomie, l'une des deux grandes associations françaises avec la SAF. Voilà, toutes les infos sont sur internet, sur le site de l'AFA par exemple, afastronomie.fr, transit de WASP-148b. Il y a aussi ces dernières années beaucoup de télescopes dits intelligents qui sortent sur le marché, et donc ils ont demandé à la communauté des EVscopes, qui sont des télescopes un peu automatisés entre guillemets, ils vont être sollicités, même s'ils font pas 200 mm de diamètre. Ils sont assez pointus et avec une accumulation de ces différents télescopes, on pourra arriver à avoir des données. Et donc, à transmettre ça aux scientifiques.
Merci Axel. Alors, on va passer donc à la rubrique Abrac. Et donc, cette semaine, on reçoit un invité, une fois n'est pas coutume, et c'est Bernard Cellier. Alors Bernard, tu habites à Marignac et tu as créé en 2015 les rencontres d'astronomie de Marignac. Et tu es venu gentiment pour nous faire partager ton expérience sur cet événement, sur son organisation et sur son déroulement. Alors moi, la première question que j'avais envie de te poser, c'est comment ça a démarré? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait pour créer cet événement?
Alors quand j'ai initié auprès des voisins, des copains qui habitent le village et de la bande de potes de faire ces rencontres d'astronomie. Alors au départ, ça s'appelait Marignac fête les étoiles. Bon, on peut appeler rencontre astronomie de Marignac, c'est pareil. Disons que c'est la curiosité, et puis on s'apercevait en fait du gouffre de notre ignorance quand on regardait le ciel, il faut bien l'admettre. Et donc Eh ben, on s'est lancé un peu de façon impromptue et très un peu présomptueuse, sans trop savoir du tout où on allait, et ça a démarré aussi simplement que ça.
L'envie.
L'envie de connaître, un peu une soif de connaissance, et on s'est dit, mais on va appeler des gens bien qui s'y connaissent, et puis on va faire la fête surtout. C'était surtout l'envie de faire quelque chose, un moment festif, de partager un moment festif et de connaissance. C'est d'abord ça, l'ambition c'était ça. Et ça a très bien marché, ça a marché 4-5 ans. Et les premières années, on a eu une centaine de personnes, c'était assez local, c'était beaucoup des gens du village qui venaient voir ce qui se passait, qu'est-ce que c'était ces gens avec des télescopes, et puis qui mangent des frites et qui boivent des pierres, et puis qui regardent le ciel, et puis qui rigolent, et puis qui... en fait, c'était le but de s'amuser, surtout. Mais aussi avec des gens extrêmement sérieux, qui nous apportaient des connaissances scientifiques assez pointues, qui nous dépassaient complètement, quoi. Voilà.
Moi, je me souviens être venu à ces rencontres de Marignac il y a de cela, je dirais, 3 ou 4 ans.
Ouais.
Et justement, ce que j'avais trouvé chouette, c'était ça. C'était parce que franchement, bon, pour en avoir fait, voilà, la science, ça peut être vraiment chiant ici. Ouais. Et les scientifiques peuvent être d'un ennui, mais réellement mortel. Et or, l'astro, pour moi, c'est pas ça. L'astro, c'est la beauté du ciel, avant tout. Et du coup, je trouvais ça chouette. Justement, on sentait cet esprit dans les rencontres que tu as créées. On n'est pas là pour se prendre la tête. On est là. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour faire n'importe quoi, pas du tout. Mais on est là détendu et on est là pour, en simplicité aussi. On n'est pas là pour dire qu'on est les rois du monde ou qu'on sait tout. Bien au contraire, pour créer une occasion. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Créer l'occasion pour les gens, en plus qu'on s'y connaisse ou pas en astronomie, ce n'était pas vraiment le propos. Enfin, ça ne changeait rien, en fait. On pouvait profiter de l'événement en novice ou même en amateur un peu éclairé, ça ne posait pas de problème.
Alors, tu as tout à fait raison, parce que Axel pourra le confirmer, mais disons que nous, c'est une démarche d'humilité. d'humilité complète, mais aussi on attache avec l'expérience, on attache beaucoup d'importance aussi à faire des jeux pour les familles, pour les enfants. Reproduire le système solaire avec des danses ou des trucs comme ça, faire des fusées à eau, comment ça marche une fusée avec un compresseur, une bouteille d'eau, on peut faire une fusée. Des jeux très simples comme ça. Ou alors il pourra plus venir parce que, bon, suite à des problèmes de santé, mais je pense à Roland Clèche, qui est astrophysicien, mais surtout radio-astronome, et qui nous a déployé des antennes sur le site à Marignac, sur l'aire de loisirs, pour écouter le soleil. Alors, il y avait d'autres astronomes qui venaient avec des lunettes pour observer le Soleil. Alors, il y a des lunettes spéciales avec des filtres alpha, mais avec un télescope. Et, alors, j'allais dire un papier de chocolat, c'est pas ça. C'est un papier spécial. C'est un papier spécial qui permet d'observer le Soleil, surtout toutes les perturbations coronales. Et ça, c'est magnifique à voir. On s'aperçoit qu'en fait, le Soleil, c'est comme une orange. Et puis, de temps en temps, on voit qu'il y a une gerbe qui sort, une grosse protubérance qui sort. Alors, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est une protubérance, enfin, pas une explosion, mais enfin...
Ça revient à ça.
Disons que tu vas faire cuire de la pâte de coin, et puis tu remues, tu es obligé de faire ça à chaud, parce qu'il faut que l'humidité s'évapore. Et de temps en temps, tu es obligé de répondre au téléphone. Alors, tu poses la cuillère en bois, tu vas répondre au téléphone, paf, ça saute.
On éjecte la matière.
Ça éjecte la matière au plafond. Et ben, une explosion sur la couronne, c'est exactement ça, en fait. Sauf que ça va dégager une énergie considérable. Et après, ça va se retrouver sur Terre 10 minutes après, quoi. Avec des conséquences, des fois, terribles. Ça a fait dérailler des trains au Canada il y a quelques années. Ça a fait des trucs terribles. Alors, c'est expliqué simplement. Mais disons qu'on attache beaucoup aussi d'importance, à voir ça d'une façon, à voir l'astronomie d'une façon simple, voilà, sans se prendre la tête, comme tu dis. Et surtout s'amuser, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'astronomie, ça ne doit pas être triste, quoi, au contraire.
Moi, j'avais vu justement, j'étais venu avec mon fils qui était en petit à l'époque, il devait avoir 4 ans ou 4 ou 5 ans, et on avait justement donc, écouté le Soleil. Donc effectivement, il y avait ce radio astronome qui avait monté une antenne. Donc il l'avait branché sur une des fréquences d'émission du Soleil, et il convertissait ça en fréquence audio. Et du coup, bah oui, alors quand tu dis à un enfant, ouais, on écoute le Soleil, forcément, ça l'étonne et ça le fait rêver, en fait, vraiment.
Mais oui, non, j'ai trouvé ça, moi j'étais assez déçu, par contre. C'est un bruit de friteuse un peu géante.
Ouais, mais c'est pareil que quand tu pointes une galaxie ou une nébuleuse et qu'au fond, t'as juste une tache floue dans le télescope. Mmh. Ouais, et qu'en fait, il y a plein de gens qui vont te dire, ouais, bah super, ta tache floue, ils sont habitués aux images de Hubble, oui. Les couleurs,
bah là, et machin. Forcément.
Et toi, t'es là avec ta tache floue et t'es tout content. Tu peux passer pour un charlot. Sauf qu'en fait, bah, moi, regarder la tache floue, bah, moi, ça me fait plaisir, en fait.
Bien sûr.
Mais donc là, après, c'est une question de sensibilité aussi, d'être attiré par ça ou pas. C'est pas forcément spectaculaire, hein, les choses qu'on observe, non. Ou qu'on écoute. En l'occurrence, effectivement, ça fait quoi? Ça fait...
Voilà, oui, bon. ça grésille.
Alors,
beaucoup.
Oui, j'ai écouté le Soleil, c'est vrai. mais bon, quand même, ça, c'est du signal qui vient du Soleil.
Ouais,
et exactement. Avoir conscience de ça, c'est déjà un plaisir, je trouve.
Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de la relativité d'Einstein. C'est vrai qu'on explique aux gens aussi que ça met 10 minutes, que le signal, oui. Il est arrivé 10 minutes avant. Mmh. Enfin, il s'est produit 10 minutes avant, il a mis 10 minutes à intervenir. Et c'est ça aussi qui fait les aurores boréales.
Mmh. Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as réussi à mettre en place cet événement? Parce que tu disais que tu n'étais pas tout seul à faire ça.
Non.
Donc, tu as dû fédérer un peu des énergies, taper à
exactement,
certaines portes, trouver des subventions, du budget. Comment tu as réussi à
départ,
monter tout
ça? Au départ, on est parti de rien. On est parti avec un budget à 0 €. Et donc, il fallait se baser aussi sur la population estivale qui vient nous rendre visite et admirer le Diwa l'été. Donc c'est entre le 15 juillet et puis le 31, et après le 1er août jusqu'au 15 août à peu près, là où il y a une plus forte densité de population. Et en évitant la bascule entre juillet et août, enfin fin juillet, début août. Donc là, on
le chassé-croisé des juilletistes et des amis.
Voilà. Donc il faut faire attention à ça, parce que sinon, les festivals se vident à cette période-là. Ou alors les gens, ils arrivent, ils déposent leur valise, ils n'ont pas le temps d'aller à un festival. Donc il faut bien calculer ça. Et donc il faut tenir une buvette, il faut tenir préparer à manger. Mais bon, il faut faire simple aussi. Il ne faut pas que ça soit une charge pour les personnes qui s'en occupent, parce qu'il faut que les personnes qui s'en occupent aient le droit aussi d'aller écouter le soleil et puis bien venir observer dans les télescopes les constellations, ou même simplement les cratères de la Lune quand ils sont en lumière rasante, quand la lumière est un peu gibbeuse. Et
donc concrètement, il y a beaucoup de bénévoles, donc j'imagine.
Il y a beaucoup de bénévoles, on est une quinzaine de bénévoles, à peu près, pas plus, une dizaine de bénévoles. Pour sur Marignac, à monter ce petit festival.
Et tu disais que la première année, notamment, vous êtes parti vraiment de rien, mais vous êtes nombreux, enfin plusieurs en tout cas, avoir de l'équipement d'observation.
Non, pas du tout. On avait un ou deux télescopes, c'est tout ce qu'on avait. D'accord. Vraiment, on n'avait rien. Et on a invité la SAF, la Société Astronomique de France, qui sont venus très aimablement et qui sont venus un peu voir ce qui se passait, parce qu'ils travaillaient déjà, enfin ils travaillaient, ils venaient surtout sur Valdrome.
Oui.
Et ils se sont dit, tiens, il y a un petit festival qui se monte en parallèle à côté. Donc ils sont venus voir par curiosité. Après, on a travaillé aussi avec, enfin on a travaillé, on a fait venir des gens de l'IAP, Institut Astrophysique de Paris, des gens absolument merveilleux qui expliquaient avec beaucoup de poésie la naissance de l'univers jusqu'à nos jours. Mais je ne pourrais pas te le transmettre, mais c'était vraiment étonnant, vraiment étonnant. Et là, après, disons qu'on a beaucoup travaillé. Enfin, on a invité aussi le club Les Pléiades de Beaumont-les-Valences.
Ouais.
Voilà. Et qui sont des gens aussi amateurs, mais absolument passionnés, des grands fous furieux de l'astronomie. Et qui ont des télescopes de toute taille et qui sont vraiment extrêmement ouverts et à toutes les questions et qui répondent avec beaucoup de simplicité, quoi. Vraiment.
C'est que l'astronomie, c'est un monde de passionnés, l'astronomie amateur. Et du coup, c'est vrai que si on appelle les gens, ils sont, enfin, souvent les astronomes ils sont prêts à venir faire partager leur passion sans forcément se faire payer ou quoi que ce soit en fait.
Oh, bah, ici, ah, il y a des déplacements.
Non, mais d'accord.
Sinon, mais ça mange et puis ça boit beaucoup la nuit.
Ouais. Ah, ça c'est autre chose.
Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a eu la chance de fidéliser un intervenant qui s'est pris de passion pour Marignac et qui aime beaucoup le village, François Legendre, que connaît Axel, et qui, lui, est historien de l'art. Et qui nous, lui, quand il nous a fait des promenades un peu plus pour les familles, ou on va dire grand public, quoi, en expliquant l'histoire grecque dans le ciel. Et ça, c'est merveilleux, ça. Mmh. Réellement merveilleux. Et également quelqu'un qui n'est pas connu, mais qui habite sur 10, c'est M. Gérard Oudenot, qui travaillait au CNAM, mais je ne suis pas sûr, mais qui est un des spécialistes français des cadrans solaires. Réellement très, très intéressant. Et qui... Au musée de l'homme, pardon. Et qui nous expliquait, par exemple, les premiers cadrans solaires, c'était des grands rochers dans les falaises qui donnaient une lumière à une certaine période. Et qui est donné une indication pour que les gens, les bergers de l'époque remontent ou descendent leurs troupeaux en fonction de la lumière sur la falaise. C'était les premiers cadrans solaires qu'on pouvait interpréter comme tels. Et bien sûr, toute l'histoire jusqu'au cadran solaire moderne, quoi.
D'accord. Et eh bien, c'est intéressant tout ça. Donc, t'as, en fait, toi, tu es parti juste de ton envie d'apprendre et de passer des bons moments. Et tu as trouvé, en fait, toutes les énergies autour de toi. Ben,
comme une abeille, j'ai réussi à piquer tous les copains. Tu as
fédéré toutes ces énergies. Bon, mais ça, c'est. Bah c'est, je trouve ça chouette en fait d'arriver à faire ça parce que c'est à se dire je vais organiser un festival et puis on n'a rien, on ne sait pas trop, on n'a pas de télescope, etc. Et au final ça se passe, et bah c'est une belle réussite.
Alors je tiens aussi beaucoup, j'en profite pour remercier la commune qui nous apporte aussi son soutien technique et en nous prêtant un espace dédié pour, bien sûr, pour ce type de festivité, mais qui permet aussi d'accueillir beaucoup de personnes. Il y a un espace suffisamment grand pour qu'il y ait des grandes files d'attente pour aller jusqu'au télescope.
Oui, c'est ça, parce que tu disais qu'à la première édition, vous aviez eu peut-être 100 ou 150 personnes. Moi, quand j'y étais, pas l'année dernière, parce que ça n'a pas eu lieu, malheureusement.
Non, on n'a pas pu le faire.
Mais l'année d'avant, ça se comptait en centaines.
On a estimé, mais là, on avait fait une communication de folie. À 500 personnes à peu près, 450, 500 personnes. Où je me rappelle, c'est toi qui gérais les télescopes et moi je cherchais les bouteilles de clarette chez les copains, quoi, parce qu'on n'avait plus rien en stock et tout le monde venait boire des coups.
Donc 500 personnes pour utiliser une dizaine, une quinzaine de bénévoles.
Oui, à peu près.
C'est quand même,
on a fini à 4h du matin, 4h30, 5h, on était rincés. Là, et là, on a fait des kilomètres toute la nuit. Là. Donc, ça paraît pas, mais...
Ça demande beaucoup d'énergie, ça c'est sûr.
Mais tu finis le matin, tu as le sourire.
Oui, tu te nourris aussi de ce que les gens te renvoient. Donc tu as fait ça en 2015 jusqu'en 2019. L'année dernière, ça n'a pas été possible. Cette année, ça semble à voir.
On espère.
On espère, mais c'est sûr que là, vu les incertitudes sur les calendriers, pour organiser des choses un peu à l'avance, c'est délicat.
Il y a trop d'incertitudes.
Tu verras, mais éventuellement, tu serais prêt à recommencer les
années suivantes. Toujours partant
pour une édition 2022 de la fête du ciel à Marignac. D'accord, écoute, on prend rendez-vous. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières à des moments, des choses où tu as failli te dire non mais on va pas y arriver, là ça le fait pas?
Oui, moi, ça fait partie de l'apprentissage, mais disons qu'on les surmonterait pas, on ne continuerait pas. C'est comme des gens qui ouvrent une ruche, ils se font piquer, s'ils n'arrivent pas à surmonter ça, c'est un peu pareil, quoi, c'est qu'ils n'ont pas commencé. Donc au bout d'un moment on a une certaine expérience, mais on a toujours des innovations dans les problèmes qui arrivent. Ça, c'est évident, mais c'est un peu normal. Le pire problème étant le mauvais temps.
Ah, bien sûr.
On ne peut vraiment rien faire.
Alors, un ciel couvert qui se pointe au dernier moment, c'est vrai que les astronomes, ils arrivent, ils tournent en rond, ils ne savent pas trop comment on va faire. Bon, heureusement, la radioastronomie est là pour pallier à cet inconvénient.
Parce que c'est arrivé, du coup, que la météo soit défavorable.
C'est arrivé. Il y a une année, on avait fait... trois jours, le responsable de la SAF nous avait demandé de faire trois jours de Nuit des étoiles, bon, les copains tiquaient un peu, mais sur les trois jours, il y en avait un vraiment où ça a été... Enfin, il avait plu, quoi. Et là, on avait fait un peu de radio-astronomie, mais on devait être 25 sur le site, quoi. Ouais. C'est tout. C'est comme ça.
C'est sûr que c'est une des limitations de l'astronomie. Ouais. Ça, il fait pas beau, ben...
C'est comme ça.
Il n'y a rien à dire.
Ouais. Mais surtout, oui, et tu as raison, il y a aussi la recherche de financement, parce qu'un un festival comme ça, tu l'équilibres par la restauration, mais, enfin, la buvette et la restauration, mais il faut aussi de taper à la porte des élus... demander des aides, des subventions pour développer. Développer, bien sûr, ne serait-ce que la communication, les affiches, c'est un coût, les petits flyers, c'est un coût.
Et donc, tu as trouvé une oreille un peu favorable auprès de la commune ou...
Alors, la commune, oui, bien sûr, il va sans dire. D'autant que je suis premier adjoint, donc je suis assez, je suis assez mal placé, mais enfin. Non, le département a fait un geste tout à fait exemplaire.
D'accord.
Enfin, c'est un dossier qu'on a battu ardemment.
Oui, j'imagine. Oui, il faut pas venir tout seul non plus. Mais,
oui.
Mais ça a marché.
Oui, enfin, c'est bien.
Bon. Ok, bah, écoute, Bernard, est-ce que tu aurais sur ces 5 années de rencontre astronomique à Marignac, une petite histoire, un commentaire, une anecdote de quelqu'un, ou quelque chose qui s'est passé qui t'a, je sais pas, soit amusé, soit déçu, soit plu J'imagine qu'il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, non, mais vraiment le contentement d'avoir ouvert de m'être ouvert sur le ciel, d'avoir un peu compris le ciel et de l'avoir partagé avec un tas de gens, ça c'est formidable. J'en demande pas plus, moi.
C'est une belle réussite. On te remercie beaucoup, Bernard, d'être venu
dans plaisir.
L'étoile polaire. Et on te remercie aussi d'avoir dépensé de l'énergie pour organiser ces rencontres.
J'ajoute que l'étoile polaire est invitée à Marignac comme Radio Diwa. Voilà.
Et bah, avec plaisir. Ouais, à la prochaine édition.
On ne vous retenez pas.
Sans faute.
Voilà.
Super.
Même s'il pleut. On va... clôturer cette émission. On va vous souhaiter une bonne semaine. On espère que vous avez pris plaisir à nous écouter et observez bien le ciel. Au revoir.